carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Paul Andreu, merci de nous accueillir dans votre agence d'architecture, dans le 14e arrondissement. Il y a un mois, l'Opéra de Pékin que vous avez réalisé a été inauguré. Et je voudrais qu'on revienne avec vous aujourd'hui, ensemble, sur ce travail. Paul Andreu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connu pour être l'architecte des aéroports, en particulier celui de Roissy, Roissy Charles de Gaulle, que vous avez conçu et construit, et, y compris dans ses extensions. Et puis, vous n'avez pas fait que construire des aéroports, même si vous en avez construit beaucoup, et dans le monde entier. Pour vous, ça a été une sorte d'école de l'humilité, avez-vous dit et écrit, face aux problèmes que vous avez rencontrés. Et ça vous a obligé à penser plusieurs fois l'architecture d'un aéroport. Vos derniers projets s'inscrivent dans un rapport plus insistant avec la lumière et la transparence. À la recherche, dites-vous encore, d'une cohérence interne, c'est une formulation qui est la vôtre, pour définir votre travail depuis vos débuts. Vous avez voulu confronter votre travail avec les éléments, avec l'eau, la lumière, ça faisait rebondir votre travail. Vous n'êtes pas non plus enfermé dans un style. Alors l'Opéra de Pékin qui vient d'être inauguré et qui est votre dernière œuvre, un gigantesque objet ovoïde recouvert de verre et de titane qui abrite trois salles de spectacle. Avant de commencer, je parle un petit peu de Pékin. Comment votre œil d'architecte a perçu cette ville la première fois que vous avez découvert Pékin ?
Quand j'ai vu Pékin la première fois, c'est il y a longtemps, c'est il y a plus de 30 ans, c'était pas longtemps après la révolution culturelle. Pékin sortait d'une période tumultueuse sur le plan politique, mais assez immobiliste sur le plan des constructions. Pékin était vide, il y avait ces immenses avenues vides avec très peu de voitures, très peu de circulation, des gens habillés tous de manière uniforme, des gens qui communiquaient très peu, qui étaient très, très muets, qui ne parlait que quand il se sentait un peu libre. Bon, ça a été ma première vision de Pékin, donc je ne peux pas dire qu'elle était extrêmement positive. J'étais plus curieux que... J'étais rentré en Chine d'abord en passant par Canton, et même si Canton était plus... avait subi les mêmes épreuves, Canton était plus chaleureux, plus vivant, plus sale, comme ce n'était pas possible, mais... Et Dieu sait si depuis c'est devenu propre, mais... Et puis j'ai retrouvé Pékin des années après, très transformé.
Vous y êtes retourné pour construire des projets ou d'abord
J'y suis retourné essentiellement pour construire des projets. J'y ai été les premières fois pour rencontrer, j'étais à ce moment-là, je m'occupais d'aéroport, rencontrer mes homologues qui s'occupaient d'aéroport. Je me rappelle avoir rencontré à l'époque l'architecte de l'Institut de Pékin qui faisait tout à Pékin. Dans l'Institut faisait toutes les constructions à Pékin. Je l'ai revu d'ailleurs depuis, je l'ai revu il y a 2 ans. C'était le seul qui se promenait en complet de velours côtelé. Il avait été formé aux États-Unis. C'est un type formidable, c'est un type très bien. Voilà comment j'ai fait connaissance avec Pékin, avec lui. Et puis, il y a eu un long moment où je ne suis pas revenu. Et je suis revenu un peu sans faire très, très, très attention. Et je suis revenu en faisant très attention quand j'ai commencé à faire le concours de l'opéra. Puisque là, il s'agissait de faire un bâtiment au beau milieu de la ville. Et que cette ville, à ce moment-là, était en pleine effervescence.
Voilà. Donc là, c'est un autre Pékin.
C'est un autre Pékin dont on a beaucoup dit, et c'est vrai qu'il avait été déjà très largement transformé, que les vieux quartiers avaient été démolis. Moi, quand j'étais allé la première fois, on avait déjà percé les grandes avenues, mais on avait continué ensuite, démoli beaucoup de choses, et là, c'était le moment où les vieux quartiers de Routon tombaient par paquets entiers, quoi.
Alors, quel fut le point de départ là, du projet, donc du projet de l'Opéra de Pékin, quand vous avez remporté le concours
Le projet, c'était, si vous voulez, si on parle du site d'abord, c'est un site au cœur de la ville. Hein.
C'est-à-dire présentez-nous le site.
Donc. Le site, il est voyez, au cœur de la ville, la cité interdite, plus exactement le palais impérial, la cité interdite se développait à l'avant. Dans la période révolutionnaire, on a fait cette grande avenue Chang'an, est-ouest sur je ne sais combien, 30 km d'une largeur qui à l'époque paraissait démesurée.
Elle que le aujourd'hui... piéton ne traverse pas.
Oh non, on a du mal à la traverser, puis aujourd'hui elle est pleine de voitures. Alors qu'à l'époque où on l'a faite, elle était entièrement vide. De l'autre côté de ce qu'on appelle la cité interdite, et qui est en fait le palais, il y a la place Tiananmen, qui est quelque chose de récent dans la cité interdite, et sur lequel on trouve le mausolée de Mao. Et d'un côté... du côté ouest, l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, le musée historique.
Donc c'est un site chargé d'histoire,
oui,
symbolique,
c'est le pouvoir récent, le pouvoir ancien, l'histoire. Et le gouvernement chinois avait décidé que sur le côté de l'Assemblée nationale, donc Tiananmen, l'Assemblée nationale, et de l'autre côté, sur un terrain qui était vide, on allait construire un opéra. À vrai dire, c'est un très vieux projet. C'est un projet qui date de Chuanlai. C'est Chuanlai qui avait voulu décider, proposer qu'on fasse un opéra à cet endroit-là. Et puis, il y a eu des projets, plusieurs projets, un début de construction d'ailleurs. C'est pour ça que le terrain se trouvait vide. Et même, non seulement il était vide, mais il y avait un grand creux. Un grand trou qui avait été fait. Et puis ce projet avait été abandonné.
C'était des architectes chinois au départ.
Moi, je n'ai jamais vu ces projets, mais je sais qu'ils ont existé. On a commencé. Et puis, vous savez, c'est un destin qui ressemble un peu à la tête défense, à l'arche, à l'arche là-bas au bout. Ces projets qui n'en finissent pas, qu'on prend, qu'on reprend, qu'on ne sait pas élaborer, qu'on ne sait pas finir. Et puis un jour, comme ça, on le fait. Finalement, le terrain avait changé de destination. Pendant un temps, si j'ai bien compris, ça avait été réservé à une extension de l'Assemblée. Et puis après, on a une autre fonction. Et puis, il y a maintenant 12 ans, quelque chose comme ça, le gouvernement a décidé de revenir à l'idée initiale de faire un opéra, lancer des études en Chine, et s'auto-critiquant, a décidé que non, finalement, il valait mieux faire un concours international. Ce que j'ai appris, moi, en lisant le China Daily, le journal en anglais, qu'on trouve dans tous les bons hôtels, et j'ai vu un jour que l'opéra de Pékin serait un concours ouvert à tous les étrangers. Et c'est là que j'ai décidé de faire ce concours, grâce à la lecture du China Daily.
Et vous étiez à quel endroit à ce moment-là ?
J'étais à Shanghai.
Vous étiez à Shanghai ?
J'étais à Shanghai parce que je m'occupais à ce moment-là de la construction de l'aéroport, du nouvel aéroport de Pudong, de la première aérogare du nouvel aéroport de Pudong, qui était, je ne me rappelle plus, en fin d'études ou quelque chose comme ça à ce moment-là.
C'était donc vous aviez déjà une connaissance, disons, de la Chine, de la réalisation aussi de vos projets en Chine, quand vous avez eu connaissance de cette annonce. Mais tout de suite, le projet vous a séduit ? Enfin, quand vous avez lu l'annonce, vous avez dit...
Si vous voulez,
C'est peut-être...
Non, mais d'abord, si vous voulez, je vais vous dire, un projet d'opéra, c'est toujours quelque chose de séduisant, dans la mesure où il y en a très peu dans le monde, quand même. Même si en ce moment en Chine ils en font beaucoup, qu'on en fait à Taïwan, qu'on en fait. Bon, quand même, un opéra c'est un objet rare. Donc je pense que beaucoup d'architectes font attention à des projets comme ça. Et puis à vrai dire, quand j'ai dit pourquoi ne pas faire ça, j'avais pas du tout idée de l'endroit où c'était placé. Et même quand j'ai reçu les plans, que tu es d'une espèce de feuille 21-29-7 avec un schéma, j'ai pensé qu'elle n'était pas à l'échelle, qu'il manquait des choses, quoi, parce qu'on voyait montrer la cité interdite, la place Tiananmen, l'Assemblée, et juste à côté un site, je me suis dit, manque.
C'est pas possible.
Ça doit être plus loin, enfin, ça doit être un plan à une très grande échelle. On doit être quand même à un kilomètre ou deux, je ne sais pas, quoi. Non, on est très près. Je ne sais pas si ça m'aurait encouragé ou découragé. Moi, je n'ai pas une nature, comment dirais-je, j'ai pas une nature à me croire destiné aux plus grandes choses. Donc, mais je crois que j'aurais pas reculé quand même. J'étais lancé. Bon, voilà, dans l'idée de faire un concours. Et quant à connaître la Chine, si vous voulez, j'y étais, mais vous savez, la Chine, c'est un pays compliqué, quoi. C'est un pays. Je suppose d'ailleurs que c'est réciproque. La France est un pays compliqué pour les Chinois. Et quand on croit... Peut-être qu'à l'époque, je croyais comprendre la Chine. Oui, c'est possible. En général, au bout d'un an, on croit comprendre la Chine. Au bout de 10 ans, on comprend qu'on ne comprend pas grand-chose.
C'est la découverte de l'autre, des autres cultures très, très différentes.
Oui, et Dieu soit loué. À ce moment-là, au bout d'un certain temps... tout ce qui est superficiel cessez de vous marquer et vous vous rendez compte que plus vous allez, plus il y a de la profondeur, plus en même temps il y a, comment dirais-je, une espèce de connivence moderne. Moi, vous savez, je suis convaincu qu'on est fait de la même manière. Je cite toujours le marchand de Venise, hein. Le sang qui coule dans nos veines est le même. Quand nous sommes tristes, nous pleurons de la même manière. Alors après, nous avons des mimiques qui sont différentes. Mais moi, je suis très universaliste. Et donc, je crois à l'universalité d'un certain nombre de sentiments. Donc voilà, il n'est pas nécessaire de connaître la culture chinoise pour travailler en Chine et aimer les Chinois. Dieu soit loué, parce que sinon, et il n'est pas nécessaire de tout savoir de la France pour qu'un Chinois puisse lire des poèmes d'un poète français.
Pour les apprécier. Alors, par contre, l'opéra chinois, style particulier quand même, c'est une forme de théâtre, ce sont des arts du spectacle un peu différents. Commande, justement, ouais. Précisait quoi exactement?
Alors là, c'était très très clair. Au début, il y avait un cahier des charges extrêmement complet, précis. Les responsables de ce concours étaient allés un peu partout dans le monde. Ils connaissaient très bien les équipements de tous les théâtres, ils les avaient définis et ils savaient bien ce qu'ils voulaient. Donc ils voulaient 3 salles. 4 salles même au début. La quatrième n'a pas été encore réalisée. Il voulait 3 salles. Il voulait une salle d'opéra, mais c'est-à-dire dans laquelle on peut faire l'opéra le plus occidental, exactement à l'image des très grands opéras qu'on a construit à Bastille, qu'on a construit au Japon, qu'on a construit dans un certain nombre d'endroits, très équipés, des scènes énormes, et une salle d'une jauge de 2300 personnes pour l'opéra pur, ce qui est le maximum.
C'est énorme.
C'est considéré par les spécialistes d'acoustique et de scénographie comme le maximum auquel on peut parvenir. Du moins, si on ne veut pas amplifier la voix et si on ne veut pas rentrer dans un système qui ne serait plus celui traditionnel de l'opéra et du son direct. Et puis... l'opéra dit de Pékin, ou d'une manière plus générale, l'opéra chinois traditionnel, puisqu'il y a 36 écoles de ce genre et de cet opéra, lui, il devait se jouer, et il se jouera, et il a commencé à se jouer, dans le théâtre. Dans le théâtre, qui a une jauge un peu plus petite, qui est 1100 places, qui n'est déjà pas négligeable, qu'on a construit avec un grand proscénium, à vrai dire un double proscénium d'ailleurs, un proscénium suffisamment petit pour qu'en quelques enjambées, on soit devant le public. Ce qui est essentiel, je l'ai compris un peu après, ce qui est essentiel à l'opéra de Pékin,
oui.
Que les chanteurs-acteurs viennent au plus près du public avant de parler ou de chanter. Et puis un proscénium un peu plus grand pour les choses qui ont des mouvements plus amples, enfin, qui sont déjà un peu moins traditionnels. Mais dans ce théâtre, on peut aussi tout faire. On peut aussi faire du théâtre sur un proscénium. Ce n'est pas que la Chine qui l'a fait. Au fond, entre la forme traditionnelle de l'espace théâtral chinois et du théâtre élisabétain, il y a des grandes ressemblances. Ne serait-ce que parce que c'était joué à l'extérieur... devant une maison avec des balcons, un parterre qui était une cour, etc. etc. Bon, donc, ça, la partie c'était... traditionnelle, elle était là. Et puis, en même temps, il y avait en même temps une salle de concert, qui était, dont le type n'était pas précisé, mais qui devait contenir 2000 personnes et se prêter à tous les genres de musicaux, et en particulier contenir un orgue très important.
On va en reparler peut-être après de cet orgue.
Vous écoutez Canal Academy, la suite de votre programme dans un instant.
L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Alors, comment avez-vous, en êtes-vous venu à cette forme ovoïde, disons, à ce choix?
Ah, ça c'est une histoire longue, quoi. C'est un peu compliqué, longue.
Parce que bon,
je veux dire que dans un premier temps, si vous voulez, on a eu, enfin, c'est un concours qui devait se faire en deux phases, qui définissait très précisément l'espace sur lequel qui était réservé à l'opéra. Donner des règles d'urbanisme, d'alignement avec les bâtiments de l'avenue de Shangaan, qui étaient eux aussi très précis. Il y avait la relation avec le Palais du Peuple, l'Assemblée nationale était très, très rigoureuse, on devait être légèrement en avant, comme les autres bâtiments symétriques de l'autre côté, et on devait, dans l'axe du Palais du Peuple, puisqu'on était perpendiculaire à lui, dans son axe, on devait avoir un jardin de 70 mètres de large. C'était ça qu'on nous demandait. Donc on avait un terrain finalement assez exigu pour la fonction. Et la seule possibilité pour moi, c'était à l'époque de faire un bâtiment rectangulaire. Je crois d'ailleurs que tout le monde a fait des bâtiments rectangulaires avec des formes d'intérieur diverses, avec des aménagements très très différents. Mais j'avais fait un bâtiment rectangulaire parce que je ne voyais pas comment faire autrement, un bâtiment rectangulaire dans lequel il y avait trois objets, un opéra au centre, une salle de concert et un théâtre de l'autre côté, et déjà de très grands espaces publics, sur tout un ensemble de locaux techniques, sur deux, trois niveaux, parce que justement la façade jardin et la façade avenue avaient une égale importance à mes yeux. Et donc j'avais pensé que je dirais comme un... d'une certaine manière, contrairement au modèle le plus courant des théâtres, le théâtre de Louis à Bordeaux, le théâtre de Garnier, ils ont une belle façade publique, oui. Et ils ont une cour de service, hein, oui. Un côté oui, service de l'autre côté. Et le premier, à ma connaissance, le premier qui a vraiment inversé ça et d'une manière magistrale, c'est Hudson à Sydney. Puisque lui, il était dans la situation d'avoir sur une presqu'île un contact avec la ville et un contact avec la mer, oui. Et alors que ses concurrents s'étaient mis perpendiculaires à cette grande dimension, oui. Pour résoudre leurs problèmes plus ou moins bien, lui avait accepté cette construction dans la longueur et avait, comment dirais-je, déployer le théâtre, ce qui était, on entrait bien comme dans un théâtre en opéra normal, avec des grands emmarchements et une entrée taxi qui passait par-dessous, mais ce qui était traditionnellement le foyer situé au-dessus de l'entrée était renversé, déployé vers en direction de la mer, donner une continuité, et les foyers s'ouvrent sur la mer dans cette espèce de chose absolument magnifique qu'il a fait. Et avec cette contrainte que les entrées techniques étaient au milieu du bâtiment, dans une espèce de pseudo sous-sol. Et je crois que la seule critique qu'on peut faire à son projet, mais c'était une époque où on n'avait pas du tout les mêmes contraintes, comment dirais-je, de transport de décors, d'échange de décors avec d'autres. Et donc c'est une critique qu'on fait aujourd'hui, qui est que la logistique était réduite, quoi. Aujourd'hui, dans un théâtre dont on veut qu'il marche bien, l'opéra, il faut rentrer des containers. C'est devenu une véritable usine. On a des containers de décors et comme il y a des coproductions et des choses comme ça, il faut avoir une logistique vraiment très forte et très, très impeccable. Bon, ça, j'avais l'habitude. Donc moi, dès le départ, j'avais dit, il ne peut pas y avoir une mauvaise façade, donc il n'y en aura que des bonnes, et la logistique, ce sera le niveau d'en dessous. Et le niveau d'en dessous, niveau, disons moins 7 mètres, il est resté moins 7 mètres, on l'atteindra par des rampes, on l'atteindra pas par des ascenseurs, on ne va pas bloquer le système. Donc moi j'avais organisé un système semi-industriel, niveau moins 7, c'est les accès, c'est la logistique, c'est les scènes. Hein, et je dirais à l'image de choses que j'avais regardées avant sur des salles de rock, il n'y a pas plus logistique que les salles de rock, vous savez, c'est encore plus, parce que là ils amènent des camions et puis il faut qu'ils partent le lendemain si vous voulez, j'en avais gardé l'idée simple qu'il faut qu'on puisse amener les camions au 3 de la scène et aller directement au niveau des scènes sans avoir d'intérieur. Donc j'ai fait ça. Et puis au-dessus, j'avais l'étage public et j'avais mis déjà des très grands espaces publics de manière que chaque théâtre soit indépendant, chaque salle soit indépendante, etc. Et puis à un certain moment, dans la deuxième phase, on a passé la première phase, on est arrivé dans la deuxième phase, et dans la deuxième phase, les responsables... je ne sais pas ce qu'a dit le jury exactement, mais bref, les responsables politiques ont dit ça ne va pas, pousser tout de 70 mètres. Pourquoi pousser de 70 mètres vers l'extérieur de l'avenue pour qu'on ne puisse que. Pour que, pardon, depuis la porte Tiananmen de la cité interdite, on ne voit pas ce bâtiment. Qui fatalement, quels que soient les projets, n'avaient pas le même style que les autres. Et donc ça a été un moment de crise. Enfin moi, j'ai très mal pris parce que j'ai écrit à ceux qui organisaient le concours que je n'avais pas l'habitude de pousser mes bâtiments comme on pousse des meubles et que ça ne se faisait pas. Et qu'un bâtiment était fait en fonction d'un certain nombre de considérations sur l'environnement construit et qu'on ne pouvait pas faire quelque chose comme ça, qu'il fallait reprendre à ce moment les études. Donc, on s'en est suivi une discussion un peu longue, un peu compliquée, pareil, épistolaire, et l'envie pour moi d'abandonner tout à fait ce concours dont j'avais assez. Et puis, sous la pression multiple de gens qui étaient tous des amis, j'ai repris les choses. Et à ce moment-là, j'allais dire, sûr de ne rien faire de ce qui plairait, j'en ai fait qu'à ma tête.
Vous avez pris la liberté
Oui, j'ai pris la liberté complètement de changer, de désobéir à un certain nombre de choses, d'accord, de repousser, mais en montrant que d'abord, si je repoussais en bâtiment, il ne pouvait plus garder la même forme. Hein, et qu'il pouvait garder son organisation, il pouvait garder son... Mais que il était impossible de mettre deux bâtiments rectangulaires comme ça, perpendiculaires l'un à l'autre, sans respecter aucun axe, sans respecter... Que c'était peut-être possible partout ailleurs, mais en tout cas pas dans Pékin, où la composition par des axes de symétrie était très marquée. Et donc j'ai fait une variante en montrant que, il fallait que je change la forme du bâtiment, et donc pour qu'il n'y ait pas une lutte entre les deux, il fallait que j'arrondisse le mien. Et ensuite, j'ai dit avec politesse, mais avec fermeté, que ça me paraissait une très mauvaise décision, que si on repoussait, alors ça aurait du sens de repousser de 120 mètres et pas de 70 mètres. Et honnêtement, je m'attendais à me faire virer, quoi, dès la première présentation. C'était une présentation énorme, il y avait 50 personnes dans la salle, quoi. Il y avait le représentant du parti pour la ville de Pékin, je crois qu'il y avait le maire, il y avait toute une flopée de gens. Et je les ai vus, au contraire, s'intéresser à ça, se passer le papier, enfin avoir l'air de le prendre en considération. Bref, les choses, on a encore eu des séances et des séances. Mon plan a été passé aux autres, enfin dans sa grande ligne, et ils l'ont tous adopté dans l'implantation.
Et là, vous n'aviez pas présenté cette forme ovoïde.
Si, 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 là, si, oui. Si, là, elle
là,
était
oui.
là.
Avec
elle
le recul.
Mais il y avait deux choses, il y avait la forme ovoïde et son recul. Donc le recul, il a été accepté par... Il a été accepté. La forme ovoïde, non, plus tard. Ça a pris d'autres temps. Et puis, finalement, la décision a été prise. Elle est remontée, je crois, aux plus hautes autorités de l'État. Et la décision a été prise de faire ça. Ça, c'est-à-dire cette forme ovoïde sur un bassin.
Sur un grand
bassin. Enfin, oui. C'est un plan d'eau qui fait 370 mètres de côté, enfin c'est pas tout à fait carré, mais donc c'est quand même un grand bassin. Un petit critique français sans talent l'a qualifié de flaque, mais il n'a parlé là que de la limite de sa compréhension.
Donc cette grande forme ovoïde, elle n'est pas posée, mais sur ce grand
elle
miroir
comme,
d'eau.
Elle est comme posée. Elle est
parce
comme
que les
posée.
Photos aériennes que j'ai vues, parce que je n'y suis pas allée, ça donne cette impression.
Oui, mais on a tout fait pour que ce soit comme ça. Oui. Moi, je voulais, si vous voulez, ce concept s'est mis. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit à la fois un endroit où on passe, et ça reste à faire. Je veux dire que tout est fait pour ça, mais pour le moment, le bâtiment n'a pas vraiment été ouvert aux visiteurs. Mais que ce soit un endroit où on passe, que ce soit un morceau de la ville. Mais un morceau de la ville, comment dirais-je, un peu en particulier, un quartier de théâtre qui est un quartier où on entre et on sort sans qu'il y ait un rempart qui empêche d'y aller, mais qui est cette espèce de protection naturelle qui est l'eau. Mm-hmm. Donc c'est un bâtiment qui est entièrement entouré par l'eau, qu'on ne peut pas toucher. Et c'est rare le bâtiment qu'on ne peut pas toucher, hein, qui est toujours à une certaine distance, assez grande, dans lequel il n'y a pas de porte.
Alors comment on y accède ?
Et on y accède par-dessous. On y accède de manière
un peu
magique, un peu mystérieuse, un peu par-dessous, c'est-à-dire qu'on passe, selon de l'avenue de Shangan, dans des grands escaliers, on descend 7 mètres dans une espèce de grande conque qui sont des escaliers, et puis on passe sous le bassin, sous un toit en verre.
Et on voit l'eau alors.
Donc on voit l'eau, alors quand l'eau remue, je pensais que ce serait comme ça, mais c'est encore plus fort que ce que je pensais, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, l'eau est totalement immobile, on voit au travers le bâtiment vers lequel on se dirige. Et si au contraire il y a du vent, ce qui est fréquent à Pékin, on voit les mouvements de l'eau. Et la combinaison du soleil et du vent fait des mouvements d'eau qui se projettent partout.
Oui, partout.
Sur les sols, sur les murs, sur les structures, tout bouge. Tout remue et tout comme ça.
On entend, c'est bruyant.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non,
c'est dans un univers de silence.
C'est purement.
Et c'est juste des jeux de lumière.
Ah, de silence. Pour avoir du silence en Chine, il faut s'en occuper. Donc, ce n'est pas le silence à bien des égards. Mais c'est ce que je voulais que ce soit. C'est-à-dire un endroit où comment dirais-je, où sont. Dans une continuité totale, on passe d'un espace à un autre. Oui. Vous savez, l'histoire de ces passages, d'abord, ça m'avait beaucoup occupé quand je faisais les aérogares. Les passages, comment on passe d'un espace à un autre, comment on passe de la terre au ciel, comment on passe. Mais c'est. Je veux dire, je n'ai pas la fonction de passage, c'est une fonction. Dans la vie symbolique des gens, toujours le passage de l'âge adulte, de l'âge enfant à l'âge adulte, le passage de la naissance, le passage au-dessus des éléments de la rivière, et il a des représentations dans l'art nombreuses, enfin quand Hein, quand Virgile et le Dante passent au paradis, ils prennent un souterrain, un tunnel, hein, et ils sortent dans un espace nouveau. Comment s'appelle-t-il ? Je vais pas réussir à sortir son nom, mais tout le monde verra de qui je parle quand il y a ce grand tunnel où on voit ces petits personnages passer chez ce peintre flamand. Ça symbolise quoi, le passage vers la mort ou vers on ne sait quoi, mais c'est toujours ces fonctions de passage, de tunnel, de pont. Elles sont présentes partout, elles sont présentes dans toutes les mythologies d'ailleurs. Hein. En Chine, il y a une mythologie que tous les gens connaissent. Là encore, je ne connais pas les noms précis. D'un monde merveilleux que un ou des voyageurs découvrent par surprise, comme ça, dans la montagne. Et puis, l'empereur ayant entendu parler, envoie ses troupes et jamais il trouve le passage. C'est une espèce de paradis dans lequel seuls ces gens ont pu passer. Donc il y a comme ça une espèce de fonction mythique, symbolique dans cette espèce de passage qui signifie qu'on perd un certain nombre de ces repères et que chacun pour soi, surtout chacun pour soi, chacun comme il l'entend, chacun comme il le peut, passe dans le monde de la fiction, de la représentation, de l'opéra, parce qu'il faut reconnaître que si on entrait dans un opéra comme on entre dans un supermarché, ça n'irait pas.
Donc là, on passe, j'allais dire, sous un... On prend un bain de lumière quand même dans un souterrain.
Une lumière bizarre.
On pénètre donc sous cette immense voûte.
Et on débouche dans ces voies-là.
Et là se présentent donc les trois salles différentes que vous avez conçues. Sur la forme elle-même, alors, pourquoi cette grande voûte ? Enfin, je ne sais pas si...
Vous savez, alors là,
Parce que c'est pas habituel, j'allais dire.
Je dirais qu'il n'y a pas de pourquoi. Là, il n'y a pas de pourquoi. Je veux dire, il y a du comment. Dire exactement quand, comment, et presque à l'heure précise, et dans quelles circonstances, et sous l'influence de qui j'ai fait cette forme. Je peux vous dire que c'est cette forme dite de super ellipse, je la connaissais depuis très très longtemps. J'avais vu un article dans un journal scientifique, qui s'appelait Scientific American, sur un Danois qui l'avait particulièrement étudié, qu'il avait utilisé sur le plan urbain, qui a fait des petits objets comme ça, on en trouvait à la maison du Danemark. J'ai découvert très longtemps après, d'ailleurs, qu'on l'appelait aussi courbe de Lamé, du nom d'un mathématicien français du 18e. Oui, j'ai immédiatement récupéré ça. Hein, j'ai jamais prétendu que je le connaissais à l'origine. Mais bon, si vous voulez, c'était en fait... Pourquoi cette forme ? Parce que... Je ne sais pas. Parce que je suis beaucoup habité par les formes courbes. Je les ai beaucoup utilisées. Parce que j'ai cherché à envelopper quelque chose, et que je me souviens très bien avoir découpé des bouts d'un plexi transparent et souple autour d'une tasse de café. Alors bon, ça fait pas très sérieux de dire ça, mais c'est comme ça que et puis finalement je me suis dit pourquoi pas cette forme et pourquoi pas celle-là, en me disant ça ne marchera pas, mais ça marchait quand même. Et là, alors qu'on je piétinais, j'étais en pleine dépression sur ce projet. En quelques jours, on dit, ben voilà, on va faire ça. Et indéniablement, il y a un souvenir de Boulet que j'ai toujours, qui est un architecte que j'ai toujours aimé, que parmi les architectes révolutionnaires, qui est sans doute celui que je préférais. J'ai toujours mieux aimé Boulet que Ledoux, donc il est moins construit. Bon, voilà. Et donc cette espèce de souvenir d'architecture révolutionnaire, ça allait assez bien avec mon idée que de toute façon, ce concours, je l'avais perdu, que je le faisais pour qu'on ne me dise pas que j'avais abandonné, hein, et qu'on ne me reproche pas d'avoir abandonné, et que c'était, comment dirais-je, mon œuvre gravée, comme on disait il y a très longtemps. Alors finalement, c'est devenu une œuvre construite et on a énormément travaillé pendant 10 ans là-dessus.
Mais est-ce que vous pensez que c'est un élément qui a justement joué en votre faveur pour obtenir le concours complètement enfin, est-ce que ça a surpris
Oui, je crois que c'est...
Parce que c'est assez...
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'en sais trop rien. C'est vrai que c'était un projet, alors là, pour le coup, qui était très, très nouveau par rapport aux projets que j'avais montrés. En fait, l'organisation était la même, l'organisation de fonction était exactement la même, mais l'image extérieure et l'image intérieure vue de l'espace public était profondément modifiée. Je crois que ça a été à la fois une image pour les gens du jury et pour les autorités qui décidaient, déconcertante, dérangeante et en même temps intéressante. C'est-à-dire que finalement, ils voyaient bien que ça sortait de toutes les normes dans lesquelles... ils voyaient bien que ça sortait de toutes les normes dans lesquelles on s'était les uns et les autres enfermés jusque-là.
C'est l'introduction quand même de quelque chose de tout à fait nouveau dans ce coin de Pékin
si
chargé d'histoire.
Alors, d'un autre côté, si vous voulez, bon, est-ce que... Ça a été ensuite un long débat, très violent par moments, sur la culture du lieu, l'environnement, le respect qu'avait ou que n'avait pas ce bâtiment par rapport aux autres, le raccord ou pas le raccord. Mais moi, j'ai toujours eu la même position, mais je l'avais déjà au début. C'est-à-dire que je pensais qu'on ne pourrait pas construire dans cet espace de Pékin quelque chose qui soit, comment dirais-je, une œuvre... respectueuse du passé au point de tenter de limiter ou de... Vous voyez, moi je pense que j'ai toujours pensé à tous les moments de ma vie, mais je pense que le respect ne passe pas par la soumission. On peut tout à fait respecter les choses et les gens et les personnes et les institutions sans s'y soumettre. Dans une Chine complètement nouvelle, vivant d'une manière différente, s'habillant différemment, aller imiter les formes du passé, c'était faire du Disneyland, de l'anticulture en fait, et pas de la culture authentique. Que la culture authentique consistait justement à faire le pari de retrouver, dans une autre écriture tout à fait différente, dont rien n'assurait qu'elle soit elle. La culture, encore une fois, la culture n'est pas écrite quelque part dans une espèce de forme préétablie. Il se trouve que certains bâtiments deviennent la culture d'un pays, et certains écrits, et certaines musiques, et certains... Et que la seule chose qu'on pouvait faire dans ce cas-là, c'était faire ce pari qu'un bâtiment, là, avec une certaine audace, une certaine, effectivement... nouveauté qui n'était pas irrespectueuse par rapport à ce qui existait pouvait devenir chinoise, profondément chinoise, et représenter la ville. Je dois dire d'ailleurs, pour être complet, que tous ceux qui m'ont fait des procès comme ça avaient en fait une espèce de contradiction en eux-mêmes, parce que ils défendaient la cité interdite, les Routang, et la plupart d'entre eux avaient les paroles les plus goguenardes ou les plus critiques pour le Palais du Peuple et la place Tiananmen, qualifiée d'architecture stalinienne ou de... Ça ne m'a pas paru, enfin, je ne me suis jamais battu pour défendre cette architecture. Moi, je l'ai toujours prise, au contraire, je ne l'ai pas prise pour une grande époque de l'architecture chinoise, mais pour un fait. La Chine, à un moment de son histoire, avait construit ses bâtiments. Bon, moi, je n'étais pas là pour les ridiculiser, je n'étais pas là pour les respecter, j'étais simplement là pour dire, il se passe autre chose, hein, le gouvernement chinois, aujourd'hui, décide qu'à côté de cet ensemble issu de la Révolution, pas loin de l'autre ensemble venant du pouvoir et de la tradition, on allait faire un immense bâtiment culturel. Point. Moi, j'étais chargé de l'immense bâtiment culturel. J'étais chargé de, comment dirais-je, de composer avec eux. Mais composer veut dire... mettre les choses en situation telle qu'on peut se parler, qu'on peut, c'est ça l'urbanité, c'est un certain respect de ce qui a été fait dans les axes et tout, et une position très tranchée sur les idées. Il y a pas le meilleur dialogue entre les gens, c'est quand ils sont assis en face l'un de l'autre convenablement et qu'ils déploient leurs idées avec une grande liberté. C'est ça qu'on peut faire de mieux. Et beaucoup de mes détracteurs oubliaient simplement étaient pris dans cette espèce de contradiction qu'ils n'aimaient pas la place Tiananmen et tout le reste, qu'ils n'aimaient pas non plus, et qu'on se demande ce qu'ils aimaient à la fin. Pas grand-chose, sauf eux-mêmes. Et en quoi ? Alors là, je suis formé, ils avaient tort.
C'est quand même le signe d'une belle ouverture aussi, qui était possible à ce moment-là de l'histoire. Oui. Et c'est à la fois intéressant de voir que les autorités décidaient, comme vous l'avez dit, de la création d'un espace culturel. Quand même, c'est pas rien. Et puis que le projet vous a été confié à l'issue d'un concours. C'est aussi, là, on est quand même dans l'ouverture, quoi qu'il arrive. Quoi.
On est dans un dialogue, on est dans une partie qui est partiellement inconnue. Oui. On est dans un bâtiment culturel, il n'est jamais innocent. Le centre Pompidou, il a été choisi pour un certain nombre de vertus, et il en a beaucoup. Mais son déploiement en a fait apparaître d'autres problématiques, et d'autres... je veux dire que faire un grand bâtiment culturel, c'est de manière consciente ou pas, et je crois que c'était conscient, se déclarer prêt à un certain nombre de réappréciation, sinon de remise en cause.
Alors, vous avez fait le choix du titane et du verre, pour donner un peu une idée aussi à ceux qui nous écoutent, et puis parce que c'est très important aussi, au niveau de la structure du bâtiment. Enfin, moi, je ne suis pas architecte, hein, je parle le langage de base. Avec ces matériaux, des photographies que j'ai vues de l'opéra, j'ai eu l'impression d'un grand dessin sur cette grande coque avec ces deux matériaux, avec l'usage de ces deux matériaux.
Au tout début, aucun point de support, de contact avec le toit, on a trois objets, opéra, salle de théâtre, et puis qui baigne dans un espace public général, très haut, très grand, très... Hein, c'est comme si on avait mis l'Opéra Bastille sous une grande bulle, vous voyez, et puis qu'on avait fourgué un certain nombre d'autres choses en même temps. Bon, donc voilà. Alors, il fallait que la lumière entre là-dedans. Et moi, j'avais envie qu'il y ait à la fois des lumières très vives et des ombres très fortes. Pourquoi ? Alors, je peux me justifier par après en disant que c'est très chinois. Hein. C'est vrai que beaucoup de bâtiments traditionnels chinois ont à la fois des passages extrêmement lumineux et des passages complètement dans l'ombre. Mais, bon, on ne sait jamais ce que fait votre inconscient, votre subconscient quand on fait un projet. Mais, honnêtement, ce n'était pas l'imitation d'une forme chinoise au début. C'est une rencontre. Ce que je voulais, c'était effectivement que la lumière perce ce bâtiment de part en part, indique une espèce de traversée, d'ouverture. Encore une fois, elle est pas, cette ouverture, elle n'est pas chargée d'un message, pour, hein, comme on dit en bref, pour les messages, il y a la poste, quoi. C'est pas la peine. Il n'y a pas de message dans les bâtiments. Il n'y a pas de sens, même, à vrai dire, qu'on peut expliciter dans une autre langue que celle de l'architecture. S'évasant très fortement d'un côté, moins de l'autre, et se rétrécissant dans la partie supérieure, donc formant une espèce de grande courbe comme ça, dessinée sur l'ovoïde, une immense verrière. Quand je dis immense, c'est qu'elle fait 100 mètres de large au plus large, et qu'elle monte à 40 mètres, et que là encore, elle fait 10 mètres. C'est ce qui donne la lumière à l'intérieur dans la journée, c'est ce qui permet la nuit.
Alors,
de
nuit,
montrer que l'animation sort, c'est-à-dire que cette coquille qui peut paraître de jour un peu pleine, un peu énigmatique, la nuit, elle s'ouvre. Elle s'ouvre à la lumière. Et à travers cette verrière, on voit la lumière de l'intérieur. Sur les parties pleines des deux côtés, on a dessiné une espèce de motif aléatoire qui, effectivement, peut faire penser à une espèce de projection du ciel sur ce une espèce de ciel inversé qu'on regarderait de par-dessus au lieu de le regarder de par-dessous. Et dans ce grand dessin de la verrière, on voit apparaître l'animation intérieure, la vie. Et donc, avec cette fonction, finalement, d'être attirant, de montrer que quelque chose se passe et de donner envie aux gens d'aller voir ce que c'est. Voilà.
Vous nous donnez déjà envie d'y aller. On va peut-être marquer une courte pause.
Ouais.
Et on va reprendre après. Quand moi j'ai préparé une interview, je ne savais pas que les commanditaires avaient demandé 3 salles.
Ouais,
donc,
ouais.
Comme question, j'avais imaginé pourquoi est-ce qu'il y a 3 éléments et pourquoi il n'y en a pas un seul pour justement tous ces différents arts du spectacle.
Ouais,
quelles que soient les cultures, puisque les villes aujourd'hui, les très grandes villes, dont Pékin fait partie, aussi une espèce de culture internationale.
Parce que...
Je savais pas que ça faisait partie de la commande.
Ça fait partie de la commande. Et de toute façon, si vous voulez, maintenant, il faut reconnaître qu'il y a une spécificité des salles de musique, par exemple, qui retrouve une spécificité d'autrefois, d'ailleurs. Mais on joue quand même beaucoup moins de la musique pure dans les salles d'opéra. Pour une raison simple, c'est que la vue, l'acoustique sont pas les meilleurs possibles. Je veux dire que ça ne devient une bonne acoustique que pour autant qu'on corrige l'effet de la scène. Hein, quand un orchestre est sur la scène, beaucoup du son part dans la hauteur de la scène. Si on n'a pas une conque pour bloquer le son et le renvoyer vers la salle, on perd beaucoup trop du son pour que la salle de concert soit tout à fait bonne. Et en général, maintenant, les gens préfèrent faire des salles de musique. Mais quand je dis qu'ils ne font que retrouver les salles de musique allemandes, hein, les fameuses boîtes à chaussures, les salles rectangulaires, les salles de bal, hein, qui servaient pour faire de la musique, et dont l'acoustique était bonne parce qu'elles étaient des beaux rectangles, bien, qui avaient d'ailleurs de l'éclairage naturel en général dans la partie haute. Hein, et donc, ils sont des salles issus d'une autre fonction, mais très, très directement donnés à la musique. Et puis après, il y a eu cette invention tout à fait géniale de Charoun et de son acousticien qui est de la salle de musique de Berlin, mmh. hein, qui a transformé complètement qui a donné l'autre modèle auquel on bon nombre d'entre nous se réfèrent, piano l'appel avec les vignobles, mais ces salles qui sont beaucoup plus arrondies, qui entourent complètement l'orchestre, quitte à avoir même des places derrière l'orchestre avec la vue sur le chef d'orchestre, à mon avis des places de voyeurs plus que de mélomanes, mais pour les autres endroits, il y a une participation du public dans ces salles, et il y a dans celle de Charoun et dans un bon nombre d'autres une qualité acoustique incomparable.
Je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup respecté, justement, l'acoustique
dans la salle de concert de l'opéra, pour des raisons géométriques, d'ailleurs, pour des raisons d'encombrement géométrique, j'ai en fait adopté, d'accord avec Jean-Paul Vian, qui était de la boîte aux chaussures, c'est-à-dire d'un bâtiment essentiellement rectangulaire. J'ai arrondi les angles, je lui ai donné des courbes de tous les côtés, mais acoustiquement, elle réagit comme une salle avec de grands murs parallèles et un plafond qui, là, se trouve être essentiellement plat. Mais c'est vrai qu'ailleurs, à Shanghai, quand j'ai fait une autre série de salles de musique à Shanghai, j'ai pris l'autre type, celui des vignobles. Et on en est tous là. Si vous prenez toutes les salles qui ont été faites récemment, elles se réfèrent toutes à l'un ou à l'autre de ces modèles. Il y a pas de, on n'en a pas, on les change, on les améliore. Moi, je ris beaucoup quand je vois des grands titres, Monsieur Machin ou Monsieur Truc, repense la salle. Non, il faut être plus humble que ça. Nous, pour le moment, Charoun a repensé et nous créons à partir des pensées de Charoun et des pensées des autres. Voilà. Mais on crée, hein. On n'est pas des copieurs, on n'est pas des minables, mais on ne repense pas. Ça, peut-être un certain nombre d'entre nous le font croire aux journalistes. Peut-être les journalistes ont-ils envie de le croire, mais c'est pas vrai.
Est-ce que vous avez associé des architectes chinois ou c'est juste le cabinet de votre agence qui a monté le projet?
Ça, c'est sur l'organisation. D'abord, on est venu à deux. Moi, j'étais très proche d'Aéroport de Paris, où j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire les aéroports. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on a gagné le concours. Et en sur le règlement, on s'est associé avec des Chinois. Absolue, je dirais, c'est une nécessité d'abord financière. C'est une nécessité technique parce qu'il faut connaître les règlements chinois, il faut s'adapter à un certain nombre de conditions qui
donc
sont.
Donc ça se fait habituellement, bon. Même sur d'autres projets, dans d'autres pays.
Oui.
D'accord.
Oui, dans tous les pays, pratiquement, ça se fait. Pardon. Et même, voyez, quand les architectes européens vont aux États-Unis, ils s'associent à des Américains, ils sont. Bon. En plus, en Chine, il y a un argument de poids, c'est l'économie. Entre les salaires des gens dans les agences en France et les agences en Chine, il y avait au départ un rapport de 1-10. Hein, il tend à s'amenuiser un peu, mais enfin quand même. Produire au prix chinois dans l'économie chinoise est une nécessité. Et bien sûr, se pose la question de savoir à ce moment-là comment on travaille ensemble alors, moi, je crois que j'ai eu là, que nous avons eu le seul, je crois, contrat où un étranger a été titulaire de l'ensemble et pour lequel les Chinois étaient des sous-traitants. C'est-à-dire que nous signions tous les plans et tous les. Je crois que c'est le seul. Je crois qu'il n'y a pas d'autres projets qui. Alors. Cela dit, pourquoi ça ? Parce que c'était un projet très, très compliqué, que tout le monde avait comment dirais-je, tout le monde avait conscience que c'était un projet compliqué. Il y en a d'autres qui le sont aussi. Et que les possibilités de dérive étaient grandes. Et que je crois que mon caractère, par moments, comment dit-on, de manière diplomatique, très franc, et très obstiné, ferait que je n'accepterais pas des compromis et donc on voulait à tout prix que je contrôle l'affaire, ce que j'ai fait. Mais je dois dire, après, travailler avec d'autres, c'est toujours compliqué. Et travailler avec des gens avec une autre langue, avec d'autres, c'est toujours compliqué.
Vous parliez en anglais ?
On parlait en anglais avec des traductions, presque tout le temps des traductions. Encore une fois, ça n'a pas été simple de part et d'autre, et je pense que mes amis chinois ont souffert aussi d'incompréhension. Mais ça s'est bien terminé.
C'était je veux dire que c'est un bâtiment.
Non, c'était un grand institut, un énorme institut, dans lequel il y avait de jeunes architectes. Mmh. Mais ce n'étaient pas des jeunes architectes qui étaient là tout seuls, livrés eux-mêmes. C'était bien les forces vives de l'Institut qui étaient là, à la fois sur le plan technique et sur le plan architectural.
Vous nous disiez que ça s'était bien fini.
Oui, ça s'est bien fini parce que finalement, si vous voulez, à travers des. Vous voyez, moi j'ai toujours remarqué que même quand on va à des disputes sévères avec des gens, si ce n'est pas pour des questions d'ego, si ce n'est pas pour des questions de préséance ou d'orgueil, tout s'arrange toujours. Si les gens pensent que même si vous hurlez comme un possédé et même si vous insultez le monde entier, c'est pour l'ouvrage et pas pour vous, ils vous le pardonnent. Ils le comprennent.
Alors, par exemple, pour nous donner une idée, c'est sur quoi ça pouvait quels étaient les points d'accroche
Mais si vous voulez, ils pouvaient être infinis, les points d'accroche. Vous voyez, on est tellement.
Parce qu'il y en a eu un récurrent, je ne sais pas, peut-être pas. Mais...
Non, c'est plus compliqué que ça, si vous voulez. Ça peut être. On ne s'est pas compris parce que les traductions n'ont pas suivi. Mmh. Ou les gens ont considéré que ça n'était pas grave. Mmh. Mais à la limite, ça pouvait être moi qui considérais que probablement chinois, je m'en foutais. Qu'est-ce que c'était
C'était quoi les grandes contraintes
Les contraintes dans un bâtiment comme ça, elles sont partout. Mmh. Elles sont partout, partout, partout. Tout est solidaire de tout. Et spécialement dans un opéra, j'avais des débats l'autre jour avec des architectes qui ont fait des très belles salles de musique ailleurs. Et ils disaient, l'opéra, c'est comme les salles. Non, une salle de concert est simple par rapport à un opéra. Un opéra est une espèce de casse-tête infernale parce qu'on vous demande maintenant de bien voir, de bien entendre, de. Vous voyez, ce qui est souvent antinomique. À Garnier, il y a 300 places qui voient mal. Hein, mais qu'importe, il n'y avait pas de CD à l'époque. Et maintenant, on en est presque à vous demander de trouver le son des CD. Hein, on veut trouver un son complet un peu partout. Enfin, il y a une espèce d'hystérie là-dessus. Or, ce n'est pas possible. Une salle ne vous donnera jamais à toutes les places le son que précisément on a pris, travaillé, trafiqué sur un CD. Jamais.
Bien sûr.
Hein, et c'est toute la différence d'ailleurs d'être dans une salle ou d'être dans son appartement en train d'écouter ou avec ces merveilleux écouteurs qu'on fait maintenant pour écouter de la musique tout seul. Hein. Donc là, c'est véritablement la salle d'opéra en particulier.
C'est là qu'il y a l'orgue.
C'est dans la salle de musique. Et là. Alors la demande était d'un orgue qui est plus d'une centaine de jeux. Enfin, c'est Chinois qui avait défini ça, qui l'avait défini. Moi, j'y connaissais pas grand chose. Les Chinois font des orgues dans toutes les nouvelles salles de musique. J'en ai fait un à Shanghai qui était déjà pas un petit instrument. Et je sais qu'ailleurs ils en font. Il faudra voir ce que ça va produire sur la production musicale. On verra. En tout cas, cet orgue-là, j'arrive pas à le mettre au pluriel et au féminin. Sur cet instrument, il y a beaucoup de jeux différents. Et il y a quelque chose je crois d'un peu particulier, qui est le déploiement dans l'espace de l'instrument. Si vous voulez, j'avais commencé au départ. Une fois, je ne connaissais pas grand-chose. On m'a dit, à quoi voulez-vous qu'il ressemble ? C'est des tuyaux, quoi. Je savais qu'il y en a beaucoup. Il y a ceux de devant, il y a une infinité derrière qu'on ne voit pas. Moi, j'avais fait un premier dessin en disant il faudrait qu'ils se groupent comme ça par grand faisceau cylindrique dans une grande travée qu'on avait gardée au fond de la salle, qui faisait, peut-être une quinzaine de mètres, quelque chose comme ça. Et puis, à ce moment-là, j'ai parlé à Jean Guillou. Et la réflexion qu'il m'a faite, c'est d'abord, est-ce que vous savez bien ce que c'est? Non, pas vraiment. Donc, il faut que je reconnaisse que je vois ça de l'extérieur. Et ça me dit, bon, d'accord, très bien. Mais il m'a dit, surtout, ne faites pas un orgue d'église. Vous pensez certainement à tort, comme énormément de gens, que c'est un instrument qui a été fait pour les églises. Et c'est pas vrai. C'est un instrument qui a été adapté aux églises, qui existait avant, longtemps avant, et qui a eu beaucoup d'églises. La nef des églises le contraignait, mais vous n'avez jamais aux Chinois pour suivre les conseils de l'organiste, Jean Guillou. C'est d'ajouter à la partie mécanique deux parties électriques sur les côtés, de reprendre deux petites travées de chaque côté. Et donc, au total, je ne sais pas, la cote ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un déploiement de cet instrument sur au moins 30 mètres. Et je crois que si j'avais pu faire plus, j'aurais fait plus. Donc, le son va arriver par essentiellement par le centre, mais aussi par les côtés. Et je pense que si j'avais pris les choses plus en amont, de manière à en faire un instrument totalement spatial, parce que je pense que c'est une des choses qui est importante dans un certain nombre de compositions contemporaines, que la spatialité de l'orchestre. Je dois dire que sur les conseils d'un certain nombre de musiciens, en particulier de Boulez, j'ai prévu des portions de sièges démontables, de manière à pouvoir avoir des configurations spatialisées avec du matériel relativement lourd. Mais l'orgue pouvait tout à fait suivre. Simplement, il ne peut le faire que de manière électrique. Il ne peut pas le faire autrement. Mais de choses, il était trop tard. Mais déjà, on a fait ça. Et je pense, moi, j'attends avec beaucoup de curiosité de voir comment les grands organismes vont venir jouer ces orgues. Comment... Je l'ai entendu à la fois par ceux qui l'ont construit. C'est Claes qui l'a construit avec. On a beaucoup collaboré avec eux et on a fait une chose qui est que moi j'aurais jamais osé faire tout seul, mais j'avais envie d'une certaine densité. Au fond, j'en avais absolument marre des flûtes de Pan, vous voyez. Et qui sont essentielles. J'ai fait beaucoup de physique, donc je sais très bien qu'on ne prend pas et ça ne me heurte pas. Mais j'avais un peu marre de ces flûtes de pan élégantes. Là, on s'attend toujours à voir sortir le type déguisé en bic, là, avec ses pieds et ses cornes sur la tête. Et donc je cherchais, après avoir fait un dessin qu'à la réflexion, je trouvais ridicule, de grands cylindres à plein de tubes. Si j'aimerais une espèce de dent des tubes, et chercher comment faire, Claes m'a dit, mais on peut les suspendre, ça ne change rien. Hein. On ne change rigoureusement rien, vous pouvez les mettre tête bêche, hein, en les suspendant là-haut, le son n'en sera absolument pas affecté. Et du coup, si vous mettez un petit au-dessus du long et un long au-dessus du petit, ouais. Vous arrivez à faire un rectangle dans lequel vous lisez la taille des choses, mais qui est dense, qui est plein, qui ne laisse pas.
C'est...
Oui, et on joue tous là-dessus, les tuyaux de montre, on les. Mais ici, au lieu d'en faire une chose, voyez, plus ou moins élégante, en plus, alors j'avais envie, mais je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment fait, et puis comme je ne suis pas musicien, c'est trop rien. Mais je leur avais dit, moi, je ne veux pas que les sons. Est-ce que les sons ont besoin de se suivre, comme ça, comme sur une flûte de pan? Ils m'ont dit non, pas du tout, pas du tout nécessaire. Je dis voilà, alors je voudrais que vous preniez, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait à la fin, je voudrais que vous preniez une série, connue, quoi, de Berg ou d'un autre, hein. Prenez une série et puis faites à partir de là. Donc je vois bien qu'il y a une certaine irrégularité, comme je ne connais pas rien de la musique, sauf quand je l'entends. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais il a effectivement une grande irrégularité compensée par le fait qu'il y en a dans les deux sens. Voilà. Et moi, j'attends d'entendre comment. J'aimerais bien entendre un certain nombre de gens improviser là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils font, est-ce que ça les aide, est-ce que c'est un... J'aimerais que ça soit à la fois un instrument qui résolve certains de leurs problèmes et qui leur en pose plein.
De nouveau.
Hein? Mais oui, parce que c'est comme ça, c'est en violant, en allant au-delà de l'instrument qu'on crée, quoi.
Est-ce qu'il y a un autre élément comme ça dans la salle de théâtre pour la grande salle de représentation, pour tout type de spectacle, on va dire, est-ce qu'il y a un élément qui pourrait un peu symboliser la salle?
Il y a une chose, qui est. Alors, vous voyez, dans cette salle d'opéra, ça a été. Toutes les salles, je les ai faites au moins 4-5 fois, et la salle d'opéra peut-être 10 fois, à chaque fois, avec un bout de maquette, une maquette qui faisait 50 cm par 60, ou quelque chose comme ça, pour bien me rendre compte. Et on l'a fait, refait. Et je dirais, pour éviter quoi? Pour éviter l'impression que donnent beaucoup de salles modernes d'être des instruments orthopédiques. Qui sont quasiment médicaux, tout est fait avec une espèce. Il faut, l'acousticien dit, il me faut des réflexions franches, alors on met des murs qui sont assez agressifs. Après, le sténographe dit, il faut voir bien, et puis vous avez carrément quelqu'un qui vient vous parler de vos cervicales, et donc il ne faut pas tourner la tête. Vous comprenez, Wagner.
Vous avez voulu rompre avec.
La technologie est insupportable, s'il faut avoir de plis pendant je ne sais combien d'heures, et répéter 4 jours durant.
Oh là là.
Bon. Et dans tout ça, il y a une espèce de. Il y a des contraintes de vue qui sont éminemment respectables, mais qui côté, comment dirais-je, qui ont un côté de voyeurisme infernal, quoi. Je veux dire, cette espèce de volonté, je ne suis pas contre le confort. Il y a un voyeurisme que je ne trouve pas sain. Hein. Une salle de spectacle, ce n'est pas ça. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Et celui qui m'a beaucoup aidé à comprendre, c'est le directeur technique de Garnier qui m'a dit en faisant visiter, en font, pendant un spectacle, en allant sur scène, en allant dans les coulisses, en allant à l'arrière, en allant dans les là où se commande le son, dans les régies. Bon, il m'a dit, écoute, regarde, l'opéra, c'est quand même deux verticales. Voilà, c'est deux verticales face à face. C'est ça, l'opéra, traditionnellement. Et il n'y a pas de raison que ça change. Et c'est vrai que je trouve qu'à la réflexion, il n'y a pas de raison que ça change. Que ces salles qui partent dans la profondeur, qui n'en finissent plus, ça donne depuis le plateau une impression de vide. Ça donne beaucoup l'impression d'être des salles de conférences, en fait. Et que, bon, certes, ça a par exemple un avantage d'avoir une ouverture de l'arc de scène grande, mais à la limite, ça pose des problèmes très compliqués. Très, très compliqués de production, très compliqués d'échange de production avec d'autres théâtres qui n'ont pas les mêmes largeurs. Et qu'il vaut mieux se limiter et se contenir, il vaut mieux arrêter d'en vouloir toujours plus. Et donc, moi, il me demandait 20 mètres, et après avoir bataillé, négocié et tout, et leur avoir dit ce que me disaient les gens de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire qu'en gros, le déficit d'un opéra est proportionnel par la position des nez de balcon, par la décomposition que j'ai beaucoup cherché et que j'ai lu, que j'ai trouvé bien exprimé dans le théâtre des Champs-Élysées, qui est un théâtre magnifique, en fait, hein, qui est le moment où on bascule de l'architecture classique à la moderne, mais avec une mesure formidable, hein, une différence entre ce qui est prégnant comme ligne et ce qui est présent et fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a des tas de différences de niveau que vous ne lisez pas et qui existent, et qui sont extrêmement fonctionnelles du point de vue de la musique, hein, qui font que vous entendez très bien là-bas, parce que les bords se relèvent comme il faut, alors que par exemple, si vous allez au Châtelet, dans lequel il y a beaucoup de rangs à plat, dans les angles, vous entendez vous voyez mal. Vous entendez à peu près bien, mais vous voyez mal, parce qu'il n'y a pas les échappées visuelles. Donc, J'ai fait à ça très attention, mais cette réflexion de base des verticales m'a beaucoup aidé. Et finalement, la distance de la scène aux éléments les plus saillants que sont des nez de balcon, le haut, une coupure que j'ai faite dans le parterre, ramène finalement les éléments saillants à peu près à la même distance qu'ils sont à Garnier. Et bien sûr, après, on va beaucoup plus loin. Hein, bien sûr, et beaucoup plus haut, et beaucoup plus loin. Mais il n'empêche que la convivialité publique-chanteur, elle est là-dedans. Hein. Alors, l'autre chose qu'on a faite aussi dans cette salle, qui est, je crois, un peu nouveau, ça tient la forme des murs à l'acoustique. On a eu des débats n'en plus finir avec l'acousticien. Des débats très amicaux, enfin, parce que Jean-Paul Vian était, parce que malheureusement il est mort avant que ce théâtre soit fini, mais il a été fait selon ses idées. On s'entendait extrêmement bien, on se comprenait bien, mais même si on se comprend bien, on poursuit des buts qui sont en général pas les mêmes. Moi, j'avais envie que ce bâtiment, cette salle soit arrondie, conviviale. Que les courbes ont cet avantage de contenir les gens, de les orienter les uns vers les autres.
Vous avez toujours eu ce souci,
toujours,
dans votre travail. Hein,
toujours. Et quitte à ce qu'on ait un peu plus que de temps en temps que les fameux 20 degrés que les ergonomes détestent, si vous voulez, les gens ont une vue sur la scène correcte, mais en même temps le sentiment qu'ils font partie d'une communauté. Alors que dans beaucoup de formes très, très, très agressives. On peut avoir l'impression d'être tout seul. Par exemple, je me suis refusé. Il y a des moments où vous pouvez avoir des places pratiquement isolées. Et j'ai refusé obstinément d'en faire, quoi. Hein, je les ai plutôt supprimés. Parce que, être à l'opéra seul, comme ça, c'était... Bon, donc, et lui, acousticien, était ferme que toutes ces formes rondes ne pouvaient produire, et qui étaient concaves et pas convexes, ne pouvaient produire à la fin... que des focalisations, que des défauts dans l'uniformité de la musique, qu'il en voulait aucun prix. Hein. Qu'il pouvait y en avoir un peu qui contrôlerait en mettant des profils aléatoires sur les murs, mais qu'en faire un système, non. Il fallait en particulier que près de l'arc de scène, on ait des surfaces réfléchissantes extrêmement nettes et extrêmement puissantes, plates. Et on se disputait là-dessus, on n'en sortait pas, et le plafond ci, et le machin ça. Et bien sûr, après le plafond, les scénographes veulent je ne sais combien de ponts de lumière, et chaque fois qu'on fait des trous, c'est du son qui s'en va. Donc on remue ça. Et finalement, la solution, elle est venue quand à un moment, j'ai proposé de. J'ai dit, ben, découplons les deux problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les murs que vous voulez, trois, avec leurs angles bien précis, et puis moi je vais passer devant un tissu métallique, un tissage métallique, donc, bien sûr, ça ne marchera que s'il est transparent au son, mais s'il est transparent au son, le son ira se réfléchir derrière et la vue s'arrêtera là-dessus, donc on aura les deux à la fois. On a immédiatement fait le test et test satisfaisant qu'effectivement le son n'était pas affecté par ce tissage métallique. Donc on est parti de ce principe d'avoir des murs et devant une espèce de grand tissage courbe de partout. Et il y a quelque chose en plus alors que ça a permis, c'est que entre les deux, il y a un espace qui est souvent pas négligeable, qui est de 1, 2 mètres, 3 mètres à certains endroits, ou de 50 cm, mais un véritable espace. Et on a, sur le revers de cette maille métallique, sur les horizontales qui la tiennent, on a mis un certain nombre de lumières, on a peint tout l'espace en rouge, et on a mis un certain nombre de lumières qu'on peut doser, et qui permettent de faire apparaître... Alors, derrière la maille métallique, une couleur rouge. Comment dirais-je, cette maille métallique éclairée un peu brutalement et frontalement, elle apparaît comme tout à fait opaque, métallique, un tout petit peu doré, c'est de l'inox et de l'aluminium doré.
Et
elle peut aussi,
de lumière.
D'un seul coup, quand vous faites monter la lumière derrière, elle peut aussi fondre, hein, devenir comme un peu liquide, et vous voyez apparaître une espèce de lumière qu'il faut toujours contrôler, mais une espèce de braise comme ça, très 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 chaude, et l'usage est à en trouver, quoi. Je pense que c'est un usage pour le moi, j'aimerais bien que les metteurs en scène s'y intéressent. Je veux dire que ça peut permettre à la fois au moment de l'extinction de la salle ou de l'entrée dans la salle ou de sa fermeture, au contraire, un certain nombre d'effets. Mais en même temps, pendant le spectacle, ça peut permettre aussi des effets tout à fait nouveaux. Ça, c'est un... Est-ce que ce sera important? Est-ce que ce sera décisif dans certains spectacles? Je ne sais pas. Ce sont des choses, comment dirais-je, ce sont des bouteilles qu'on met à la mer sans message. Hein, c'est celui qui reçoit la bouteille est prié de mettre le message dedans.
Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Académie dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouard, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Académie fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Académie en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser.
Est-ce que vous avez eu la main mise sur la décoration?
Oui, complètement. Complètement. Ça, c'était, ça faisait partie de la volonté même de. Et souvent, on appelle quelqu'un d'autre pour. C'est devenu très à la mode, ça, d'appeler un architecte d'intérieur pour. Et moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas du tout ça. Et j'y tenais pas. Mmh. Et mes interlocuteurs chinois m'ont dit, dès le départ, on veut que vous fassiez tout. Voilà, vous contrôlez tout.
D'accord.
Et si vous voulez dessiner des lampes, vous dessinez des lampes. Si vous voulez dessiner seul, vous dessinez seul. Vous faites. Voilà, c'est vous qui contrôlez tout. Et je l'ai fait, alors j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce qu'il y avait des limites budgétaires, il y avait des limites à ce que savait faire celui-là ou celui-là et des problèmes de délai, des problèmes, enfin vous voyez les problèmes de tous ordres, mais n'imaginez pas la difficulté incroyable qu'il y a à faire ça déjà chez soi, mais le faire avec en Chine, avec une organisation compliquée, avec un budget compliqué, avec, enfin bon, c'est épuisant, c'est véritablement un engagement, surtout à la fin où j'étais pratiquement tout seul au milieu des Chinois, j'avais plus de bureau, j'avais plus rien, j'avais à peine un traducteur. Mais en même temps que c'est comme
combien
ça,
combien de temps vous avez
10 ans.
10 ans.
Enfin, 10 ans, études et travaux, 10 ans, 7 ans de travaux.
7 ans de travaux.
7 ans de travaux, et pendant toute cette durée de 10 ans, je suis venu tous les mois en Chine. Je crois qu'il n'y a pas. Après tout, ça n'est peut-être pas une qualité en soi, mais je ne sais pas si ça vaut pour le livre des records. Mais en tout cas, je suis venu plus de 100 fois. Et je crois qu'il n'y a pas d'architecte étranger qui soit venu autant sur un ouvrage lui-même. Mais du coup, j'ai fait des tas de choses moi-même.
Aménagement aussi, peut-être.
Oui. Puis j'ai fait. Si vous voulez, il y a. C'est toujours compliqué quand vous êtes ailleurs. Vous n'avez pas les mêmes règles que chez vous, il faut vous adapter. Alors souvent, vous êtes furieux parce que vous avez dessiné quelque chose, par exemple, et qu'on le remet en cause. Et qu'on ne le remettrait pas en cause comme ça en France ou en Europe. Donc, mais au bout d'un moment, si vous reprenez votre calme, vous apercevez que dans tout système, il y a du bon. Je veux dire que si vous ne vous opposez pas aux choses et aux gens, si vous en prenez votre parti, alors vous pouvez aussi en tirer profit. Moi, je me suis... J'ai pesté, râlé, hurlé par moments, mais j'ai aussi compris que ça me permettait aussi de faire beaucoup de corrections en cours de route.
Il y a eu des allées.
Puisqu'il faisait des changements, même moi aussi. Hein, on pouvait être deux à changer. Et du coup, j'ai fait des corrections de choses...
La plus importante
Ah, je ne sais pas, si vous voulez, je me rappelle par exemple d'habillage d'escalier qu'on avait fait. Dans un seul coup, je me suis dit, en voyant arriver le chantier, que c'était lourd, que c'était insupportable. On l'avait fait, refait encore une autre fois. Il fallait baisser les plafonds. Et dans un état de crise où, après avoir déjà baissé les plafonds, on me disait qu'il fallait rebaisser de 10 cm, j'étais furieux. Et je me suis dit, en fait, j'ai raconté ça dans le livre que j'ai écrit. Je me suis endormi au milieu des plans. J'ai essayé de faire ça une nuit. Je me suis endormi. Si vous voulez dessiner des lampes, vous dessinez des lampes. Si vous voulez dessiner seul. Vous faites. Voilà, c'est vous qui contrôlez tout. Je l'ai fait, alors je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, parce qu'il y avait des limites budgétaires, il y avait des limites à ce que savait faire celui-là ou celui-là, et des problèmes de délai, des problèmes, enfin vous voyez, les problèmes de tous ordres, mais n'imaginez pas la difficulté incroyable qu'il y a à faire ça déjà chez soi, mais le faire avec... en Chine, avec une organisation compliquée, avec un budget compliqué, avec, enfin bon, c'est épuisant, c'est véritablement un engagement, surtout à la fin où j'étais pratiquement tout seul au milieu des Chinois, j'avais plus de bureau, j'avais plus rien, j'avais à peine un traducteur, mais en même temps que c'est comme
combien
ça,
de temps vous avez
10 ans.
10 ans.
Enfin, 10 ans, études et travaux, 10 ans, 7 ans de travaux.
7 ans de travaux.
7 ans de travaux, et pendant toute cette durée de 10 ans, je suis venu tous les mois en Chine.
Je crois
qu'il n'y a pas... Après tout, ça n'est peut-être pas une qualité en soi, mais je ne sais pas si ça vaut pour le livre des records. Mais en tout cas, je suis venu plus de 100 fois. Et je crois qu'il n'y a, a pas d'architecte étranger qui soit venu autant sur un ouvrage lui-même. Mais du coup, j'ai fait des tas de choses moi-même.
Vous avez fait des aménagements aussi, peut-être.
Oui, oui. Et puis j'ai fait... Si vous voulez, c'est toujours compliqué quand vous êtes ailleurs... Vous n'avez pas les mêmes règles que chez vous, il faut vous adapter. Alors souvent vous êtes furieux parce que vous avez dessiné quelque chose, par exemple, et qu'on le remet en cause, et qu'on ne le remettrait pas en cause comme ça en France ou en Europe. Donc, mais au bout d'un moment, si vous reprenez votre calme, vous apercevez que dans tout système, il y a du bon. Je veux dire que si vous ne vous opposez pas aux choses et aux gens, si vous en prenez votre parti, alors vous pouvez aussi en tirer profit. Moi, je me suis... j'ai pesté, râlé, hurlé par moments, mais j'ai aussi compris que ça me permettait aussi de faire beaucoup de corrections en cours de route.
Il y a eu des allers-retours.
Puisqu'ils faisaient des changements, même moi aussi. Hein, on pouvait être deux à changer. Et du coup, j'ai fait des corrections de choses...
La plus étaient... importante d'autres...
Ah, je ne sais pas, si, mais je me rappelle par exemple d'habillage d'escalier qu'on avait fait. Dans un seul coup, je me suis dit en voyant arriver le chantier que c'était lourd, que c'était insupportable. On l'avait fait, refait encore une autre fois. Il fallait baisser les plafonds. Et dans un état de crise où, après avoir déjà baissé les plafonds, on me disait qu'il fallait rebaisser de 10 cm. J'étais furieux. Et je me suis dit, en fait... J'ai raconté ça dans le livre que j'ai écrit. Je me suis endormi au milieu des plans. J'ai essayé de faire ça une nuit. Je me suis endormi sur mon lit. J'avais des plans tout autour de moi. Je me suis réveillé à 7h du matin, environné de plans, sans solution, sans rien. Et je suis allé sur le chantier à 9h, comme d'habitude. Et je suis allé regarder à nouveau. Et je me suis dit, mais il n'y a qu'à changer. Il n'y a qu'à changer pour quelque chose qui me va mieux. Et j'étais incapable, pendant les 2 jours précédents, de penser ça. Et d'un seul coup, tout seul, là, un peu abattu, un peu manquant de sommeil, il faut le reconnaître, je me suis dit, il n'y a qu'à changer. Et finalement, le fait qu'on ait baissé le plafond passe inaperçu, et je pense qu'on a beaucoup amélioré le projet. Et dans la foulée, à des endroits où on avait fait la même chose, mais on n'avait pas besoin de baisser le plafond, je suis allé faire des corrections en disant, bah, puisque je fais ça, tiens, vous comprendrez aussi que je fasse ça. Mon directeur vient dire, oh, oui, très bien, c'est mieux. Hein? Donc, vous voyez, alors ça, ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est une organisation de chantier dans laquelle il y a beaucoup de main-d'œuvre, dans laquelle il y a peu de matériel, dans laquelle... C'est aussi un chantier où un changement n'a pas des conséquences formidables, quoi. Vous voyez ?
C'est possible.
C'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Possible. Et c'est possible dans des délais acceptables.
Il y avait une souplesse.
Donc je l'ai fait. Et par ailleurs, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, c'est-à-dire que j'ai dessiné presque en direct un certain nombre de choses. Hein. J'ai fait des garde-corps qui sont un dessin de ma main qui est passé par des des formulations informatiques jusqu'à la machine à découper la tôle, mais qui, comment dirais-je, sur lequel j'ai court-circuité le fait de faire un dessin, de le faire refaire par un dessinateur, de le faire refaire par un type qui fait des plans d'exécution. Mais une espèce de court-circuit qui fait que vous êtes là. Le plafond de la salle de concert, c'est un morceau de sculpture que j'ai fait dans la pâte à modeler, hein, et que les gens de l'Opéra de Paris m'ont aidé à mettre en forme. Sinon, je n'aurais jamais réussi tout seul. Ensuite, on a agrandi, je ne sais pas combien de fois, pas 100 fois, mais quasiment, moins que ça. Mais il y a des plaques de bronze, qui sont coulées, j'ai gravé les cires moi-même, parce que j'en avais marre de dire « je voudrais que ce soit comme ci et comme ça ». Et enfin, je me suis dit pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je m'interdis ça, hein? Je m'étais toujours... Et d'ailleurs, si je ne me l'étais pas interdit, on me l'aurait interdit. Vous voyez, mais là, il y a une espèce... Dans cette chose si difficile, il y a aussi quelque chose de formidable qui est que vous pouvez vous investir beaucoup plus complètement, et que je ne crois pas que ça m'arrivera. Vous pouvez...
C'est un projet, avoir
votre main, oui. Et votre dessin jusqu'au bout et jusqu'au cœur des choses, ce qui est une espèce d'expérience inoubliable qui me fait penser qu'effectivement mes confrères architectes d'une certaine époque ont dû avoir beaucoup de plaisir.
Et sur cet opéra de Pékin, c'est quelque chose que vous avez expérimenté à fond alors?
En tout cas, que j'ai fait et que je n'avais jamais... Et que honnêtement, je me serais interdit. Parce qu'en plus, nous, on est habitués, on est élevés dans une espèce de... Comment dirais-je, tous, autant qu'on est, dans une espèce de division du travail. Les architectes font ça, les ingénieurs font ça, un architecte fait ça, mais un sculpteur fait ça. Et pour faire ça, il faut avoir. Enfin, il faut appeler un plasticien, hein, pour pas dire un peintre. Bon, vous voyez, et chacun est dans son domaine. Et ouais, je ne sais pas que je prétende être devenu ni un sculpteur, ni un peintre, c'est pas. Mais comment dirais-je, nos métiers, nos manières de faire, nos productions peuvent se superposer bien davantage qu'elles ne le font en général. Et en tout cas, moi, j'ai toujours été bricoleur de nature, très scientifique, en même temps très 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 manuel. Et donc j'ai enfin trouvé une issue à mon plaisir du bricolage. Voilà, comme ça, personne, les peintres et sculpteurs ne seront pas jaloux, hein, et ni vexés que j'ai fait ça.
Pour finir, quels sont les échos que vous avez de l'Opéra de Pékin aujourd'hui, un mois après son ouverture?
Ils sont pour le moment incomplets. J'ai croisé beaucoup de gens qui le visitaient. Des délégations des uns des autres, enfin, politiques, techniques. Bon, en général, les gens étaient très impressionnés quand ils sont rentrés et étaient contents et exprimaient leur satisfaction. Les musiciens qui ont joué, c'est essentiellement... J'ai vu un ou deux ballets, j'ai parlé avec les danseurs... Content, mais enfin, ils ont un plancher spécial dedans, je ne sais pas, ils ont des raisons très, très objectives d'être contents. C'est moins subtil que... J'ai parlé aux musiciens aussi qui avaient joué, et pour le moment, ils ont tous dit que ça fonctionnait bien acoustiquement et qu'ils étaient contents. Alors, ce que j'attends, c'est que le public entre. Voilà, ah, moi, je voudrais que le... Alors, si vous voulez, bon, pour le moment, ils achètent les places comme ça. Toutes les places sont vendues, ils ont envie de rentrer. Depuis qu'on a baissé la barrière des jardins, il y a constamment 100 ou 200 personnes. Bien sûr, il y a toujours, comme d'habitude en France, un certain nombre de pisse-froid, de journalistes pisse-froid qui disent que c'est pas vrai, mais je veux dire, ils se feront une fois de plus démentir par les faits, mais ça ne les empêchera pas de continuer, sans doute, à avoir comme ils disent leurs opinions. Mais l'espace public fonctionne. Moi, je pense qu'il fonctionne. Il fonctionne bien et qu'il fonctionnera.
Surtout que les habitants de Pékin adorent se promener dans les jardins.
Oui. Et puis, si vous voulez, il va se. Mon pari, je pense que j'étais, vous savez, j'ai pas beaucoup de certitudes. Moi, j'ai beaucoup de doutes surtout. Donc pendant des années, j'ai vécu comme ça, dans l'incertitude, qu'est-ce qui va se passer. Mais je crois avoir les gens et avoir beaucoup été dans ce moment où les gens commencent à venir, que le pari est gagné essentiellement, pour l'essentiel, disons, il est gagné. Au fond, si vous voulez, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont comme bâtiment moderne à se mettre sous la... Bon, des aéroports, ils n'y vont pas tous. Et j'espère que ça sera plus fréquenté que les aéroports. Des centres commerciaux, c'est quand même un peu d'une architecture. Il y aura le stade olympique, qui sera une grande chose. Mon espoir, et je pense qu'il ne sera pas déçu, c'est que ce bâtiment ait un impact comme a eu le centre Pompidou. Je pourrais dire comme a eu le centre Pompidou et la pyramide, mais la pyramide au fond est moins importante. Elle est plus si vous vous souvenez, déchaînements sur l'inculture absolue de cet architecte étranger qui ne comprenait rien à la culture française. C'est terme à terme exactement ce que j'ai entendu dire de moi. Et certains journalistes, effectivement, s'en prenaient à cet architecte en termes violents et machin. Mais finalement, le succès était là. Mais qu'importe, c'est pas tellement. Au fond, la pyramide est un bâtiment important, est une adjonction importante. Mais l'exemple principal, c'est le centre Pompidou. C'est lui qui a véritablement fait une espèce de comment dirais-je, de choc dans la fréquentation des bâtiments culturels. On allait là-bas parce que c'était un bâtiment moderne. On allait là-bas. Moi, j'habitais pas loin. J'y suis allé souvent. J'ai beaucoup regardé ce que faisaient les gens. Ils montaient voir Paris. Mais ils prenaient l'habitude qu'on peut rentrer dans un musée sans être quelqu'un de cultivé, sans être quelqu'un qui a le droit.
J'en ai directement bénéficié puisque j'avais 15-16 ans et donc c'était gratuit.
Oui, c'était gratuit. Le musée. Il y avait le musée, il y avait une bibliothèque, on pouvait rentrer. Comment on pouvait rentrer, ouvrir des livres, les reposer. Et s'il y avait eu une entrée monumentale, s'il y avait eu ces... On n'y serait pas allé. Il y avait... Donc je pense que ce bâtiment a non seulement répondu fonctionnellement à ses buts, des petits problèmes ici et là, c'est pas la question, et qu'il ait fallu le reprendre à un certain moment et juste dans la nature des choses, mais il a amené les gens à la culture. Et moi, j'espère, et si j'ai développé autant les espaces publics là-bas, c'est au nom d'une espèce de valeur 68art, de valeur sociale d'un bâtiment, d'efficacité sociale d'un bâtiment. Et tous ceux qui disent que l'opéra est un bâtiment élitiste se trompent. Ils vont en avoir un démenti immédiat si on ouvre un peu les portes. Alors pour le moment les responsables ont peur. Ils sont pas là depuis longtemps. Et à vrai dire, c'est sûr que si on ouvre les portes, on va retrouver des gens partout. Et comme ils n'ont pas bien prévu le coup, ils ont plutôt enlevé. Moi, j'avais prévu pas mal de portes de contrôle. On verra. Bon, ils en ont supprimé, à mon avis. Ils vont devoir les rétablir. Mais c'est sûr que si on ouvre les portes, il va y avoir 1000 personnes là-dedans tout de suite. Et je dirais, c'est un double but. C'est de, après tout, ce bâtiment, il est payé par tout le monde. Il n'est pas payé que par les mélomanes. Donc il est normal que les gens puissent y aller. Et il est dans l'intérêt de la musique, tout à fait. En fait, tous les orchestres, partout dans le monde, se posent la question, pour l'opéra, pour la musique classique, de comment faire le public de demain, comment il sera fait. C'est pas simplement... Les gens de 50 à 70 ans, et plus si mobilité qui vont aller. Il faut faire un public jeune, il faut intéresser des gens jeunes. Et ça ne peut pas être, comment dirais-je, que de la bonne éducation. Hein. Il faut que ça soit autre chose, il faut que ça soit vraiment le virus de la musique qui les pénètre et qui ne les lâche plus. Hein. Bon, et ça, pour ça, il faut un minimum de contact, il faut un minimum de proximité. Et c'est pas en faisant des temples lointains qu'on peut le faire.
Merci beaucoup d'avoir levé le voile sur ce travail gigantesque, parce que là on a pris la mesure de tout ce que ça représente, dans tous les détails, mais heureusement, mais vraiment on voit toute la difficulté, les contraintes, et en même temps il faut que ces espaces respirent, il faut que les gens se les approprient. C'était visiblement un très beau défi que vous avez eu à cœur de mener tout au long de ces années. Alors merci de cette confiance de nous avoir dévoilé ça.
Et pour être complet, j'ai écrit là-dessus un livre qui n'est pas un livre de justification. Je l'appelais le roman du chantier. Oui. C'est bien un roman, c'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui est fait pour que des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un chantier, qu'une construction, puissent se projeter dedans, hein, trouver leur propre vérité dedans. Et donc je raconte comme ça un certain nombre de choses qui sont vraies, mais la vérité est ailleurs. Hein, que dans la vérité factuelle. Donc voilà, tous ceux qui trouveront qu'il n'y a pas assez de détails pourront toujours s'y reporter.
Paul-André, merci beaucoup.
Je vous en prie, c'était un plaisir.